carnets de campagne. Bonjour, les carnets dans le département de la Loire, encore aujourd'hui. On commence par une date à retenir si vous êtes proche du pays d'Urfé. Le samedi 25 mai, la fête des associations à Saint-Priest-la-Prugne. Il faut bien chercher. Petite commune au carrefour de la Loire, de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Elle accueille un rendez-vous annuel qui tourne de commune en commune. Et cette année, ce sont les ressources naturelles qui ont été retenues en thème central. L'idée est d'amener les acteurs locaux à mieux se connaître et à mettre en avant les ressources et les savoir-faire. Une expérience innovante, encore une, l'école primaire publique des Frères Chappe de Saint-Étienne se transforme depuis 3 ans en musée d'art contemporain. C'est l'occasion d'inviter des grands noms de l'art contemporain et d'offrir aux enfants une vraie culture artistique. Témoignage de Jérémy Rousset, directeur de l'école. Véronique Popinet est photographe professionnelle et l'auteur d'une série de portraits des habitants des bords de Loire. Un livre et une exposition retracent le parcours qu'elle a emprunté. Elle sera notre seconde invitée.
France Inter. Carnet de campagne. Philippe Bertrand.
Jérémy Rousset, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Jérémy, vous êtes directeur de l'école publique des Frères Chappe à Saint-Étienne et depuis 3 ans, vous transformez votre école. Alors vous la transformez, c'est pas un changement radical, c'est un apport de l'art contemporain dans l'enceinte de votre école. École qui contient des classes maternelles et des classes élémentaires. Alors, les artistes contemporains qui viennent, vous avez une liste longue comme le bras qui est extraordinaire. D'abord, je sais pas comment vous arrivez à les convaincre. Et ce qui est génial, c'est que les enfants participent à la mise en place, approchent l'art directement et deviennent les guides lorsque vous ouvrez les portes de votre établissement.
Exactement. Alors, c'est une aventure effectivement qui date de 3 ans. L'idée, c'est de donner à voir à nos jeunes élèves. Donc, notre école est classée éducation prioritaire. Et pour la plupart d'entre eux, il est parfois assez intimidant d'aller pousser les portes d'un vrai musée, hein, chose que l'on fait dans le cadre de l'école. Et l'idée, c'est d'importer les richesses du musée dans l'école, dans leur milieu quotidien. Et la richesse, c'est effectivement pour eux de pouvoir voir techniquement les artistes produire leurs œuvres, ce qui est un spectacle que l'on n'a pas souvent l'occasion de voir, mais aussi et surtout de questionner le sens de ces œuvres. Et c'est là une vraie richesse pour ces jeunes élèves. Oui.
Et donc, les enfants profitent de cours d'art?
Alors, on travaille évidemment sur la programmation des artistes qui viennent à l'école, mais il y a aussi et surtout de la pratique. C'est un des grands intérêts, puisque l'idée, c'est de permettre aux enfants de créer à leur tour, en s'inspirant évidemment de tout ce qu'ils peuvent voir, mais pour qu'eux arrivent à formaliser une pratique personnelle.
Ça dérange pas l'exercice éducatif d'ouvrir les portes de l'établissement au public ?
Effectivement, on ne peut pas ouvrir dès que quelqu'un sonne à la porte, les portes de l'école, pour faire une visite. Donc pour trouver un biais, nous avons ouvert nos portes dans le cadre des journées du patrimoine et permettre ainsi la visite des visiteurs sur un moment donné. Et puis il y a des visites plus institutionnelles, c'est-à-dire d'autres classes de la région, parfois d'autres pays. On a récemment accueilli des classes italiennes et espagnoles dans nos murs. Et là, pour le coup, c'est au service des apprentissages, c'est-à-dire que lorsque des CP ou des CM2 accompagnent des lycéens ou des écoliers à travers les murs de l'école, ils sont en train de travailler leur façon de s'exprimer, d'apprendre à penser et organiser un raisonnement, être clair sur les informations qu'ils vont donner. Et c'est tout l'intérêt, je crois, de ce projet, c'est de trouver dans des situations concrètes des motifs d'apprentissage. Voilà.
Ce qui me frappe, j'ai entendu le témoignage d'un enfant de votre école, les Frères Chappe. C'est son discours, c'est d'une maturité inimaginable. On n'est plus dans le récréatif, on est dans le regard sur le monde, la compréhension du geste, de l'intention artistique aussi, et d'une fenêtre sur le monde qui est quand même inédite dans un milieu scolaire.
Nombreux sont les collègues de nos écoles publiques à se saisir de toutes les grandes ou les petites questions qui se posent pour les introduire dans le milieu de la classe. Je crois que les adultes comme les enfants apprécient d'être en lien direct avec ce qui peut se passer à l'extérieur. Et quand un artiste comme Liu Bolin vient évoquer la réponse de l'art face à la violence, quand un artiste comme Réro vient questionner l'égalité filles-garçons ou la fake news, et ben évidemment que dans le cerveau d'un enfant de 9 ans, comme dans celui d'un enfant de 3 ans, et ben il y a des connexions qui sont faites avec son expérience à lui. Et c'est en ça, je crois, qu'il y a effectivement un dialogue riche.
Les enfants qui ont rencontré il y a 2 ans Liu Bolin, alors Liu Bolin, c'est cet artiste chinois qui est fortement engagé, qui a fait beaucoup de choses où il se met en scène, il est peint et il va se fondre avec le décor. C'est presque magique ce qu'il réalise. Vous préparez les enfants avant la venue? Est-ce qu'il y a des échanges directs entre l'artiste et ses petits artistes en herbe?
Tout le temps. évidemment, nous, pédagogiquement, on guide ces échanges, mais on ne les censure pas. C'est tout l'intérêt, c'est de permettre un aller-retour, des discussions permanentes entre la vision du monde d'un artiste et celle de l'enfant. Et donc, oui, il y a eu des échanges nombreux avec Liu Boli, mais comme avec Jérôme Ménager, Ella Epitre et tant d'autres qui sont passés par nos murs.
Ouais. Les enfants ont de la chance de vous avoir comme directeur, Jérémy.
On a beaucoup de chance d'avoir ces enfants extrêmement avides de savoir et de connaître la diversité du monde. Très sincèrement et sans fausse modestie, si les artistes acceptent, ils viennent uniquement parce qu'ils voient ce que les enfants sont capables de produire et de penser. Donc je crois sincèrement à cette vision de... cette réponse. Quoi.
Alors je modifie, bravo pour l'orientation que vous avez donnée à votre école.
Merci, et si on peut se permettre une petite ouverture sur le monde, on vient juste d'ouvrir une page Facebook qui s'appelle École Musée Chap. Si des écoles nous entendent, si des curieux veulent dialoguer avec les élèves, c'est tout à fait possible. Et pour nous, c'est une source inépuisable en lecture, en écriture. C'est de chouettes rapports. Et puis, si d'autres artistes souhaitent nous contacter, c'est bien sûr possible, puisqu'on est en train de dupliquer ce projet dans le domaine musical avec des collaborations qui ont déjà vu le jour. Récemment, voilà.
Eh ben, on va pas s'ennuyer chez vous. École Musée Chap pour l'adresse, on va la mettre en lien à nos pages. Merci Jérémy.
Je vous en prie.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand. Sur France Inter.
Une innovation qui risque de ne pas passer inaperçue, des toilettes publiques écologiques à chasse d'eau. Sur ce terrain écologique, on ne pouvait s'attendre plutôt qu'à des toilettes sèches, mais il paraît difficile de les installer, de les gérer en milieu urbain, d'où le concept de la société Wico, jeune start-up créée il y a 5 ans, de toilettes qui recyclent les eaux usées sur place en utilisant un traitement biologique associé à une électrolyse. L'avantage du système est donc de fonctionner en circuit fermé, sans nécessité de raccordement à un réseau et sans gaspiller l'eau. De plus, les matières sédimentées sont utilisées en compost. L'entreprise s'est installée dans un cluster au Matériopole Paris-Seine-Amont à Vitry-sur-Seine. Ici, je vous en parle aujourd'hui dans le cadre des émissions de la Loire. C'est qu'elle possède un local dans le site de la grande usine créative à Saint-Étienne. Autrement dit, elle a un double siège. C'est encore plus confortable pour les toilettes. Plus sérieusement, Wico développe depuis un an un partenariat avec la société Alstom en vue d'intégrer ce système dans les futurs trains. Le site, c'est www.wico.com. Véronique Popinet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Véronique, j'avais évoqué votre travail les années précédentes. Votre travail de photographe sur les bords de Loire, rencontrer les hommes et les femmes qui sont façonné par la Loire, ou qui la façonne d'ailleurs. Pendant 2 ans, vous êtes allé à la rencontre de ces personnes avec l'association Fleuve Loire Fertile, et vous avez décidé de faire parler vos photographies.
Oui, tout à fait. En fait, j'aime travailler aussi avec le son. Donc, je suis photographe, c'est certain, mais je m'attache aussi beaucoup à la parole des personnes que je photographie. Et je travaille souvent avec Thierry Moulin, qui est un phonographe, donc qui interviewe les personnes que j'ai photographiées pour qu'elles puissent me parler de leurs expériences, de leur sensibilité par rapport au sujet qui est abordé en photographie.
Il y a beaucoup d'histoires. L'histoire de la Loire et des personnes qui l'ont façonnée, comme je disais, peut nous conduire vers une forme de nostalgie. Est-ce que la Loire est associée aussi à une ère moderne aujourd'hui d'évolution des comportements?
Alors oui, il y a toutes ces dimensions-là qui sont présentes dans le reportage. Effectivement, nous aussi, on est dans un lieu particulier par rapport à la Loire, c'est-à-dire que dans les années 80, il y a eu la construction du barrage de Villeret. Donc évidemment, toute une nostalgie par rapport à un type de paysage qui a finalement disparu, en tout cas qui s'est transformé. Nous habitions donc près des gorges de la Loire, initialement. Ce sont toujours les gorges, mais elles sont... on va dire immergé presque en totalité au niveau du barrage, donc des lieux qui ont disparu et aussi des façons d'habiter les bords de Loire, mais une modernité aussi parce que ce barrage a apporté de nouveaux usages et des nouvelles façons de côtoyer le fleuve, on peut dire.
Le barrage, c'est une barrière, c'est presque une coupure dans le paysage. Alors c'est une coupure aussi dans les liens sociaux.
Oui, c'est une coupure dans le sens où la Loire est plus difficile à franchir, on en est plus éloigné. Les voies de communication, en fait, sont moins proches de la Loire et du coup, toute la vie qu'il pouvait y avoir le long du fleuve courant n'est plus vraiment présente. Elle est présente vraiment d'une toute autre manière, en fait.
Alors, il y a des savoir-faire liés au fleuve. Quels sont-ils aujourd'hui ?
Alors, aujourd'hui, il y a toute une palette de savoir-faire qui sont liés à la, on va dire, à la biodiversité. Aussi une connaissance technique hein, par rapport à la gestion des eaux. Mmh. Et c'est vrai que on se rend compte maintenant que les habitants ont envie de se réapproprier justement ce vécu par rapport au fleuve et par rapport à l'élément qui est l'eau courante.
Votre travail a donné lieu à une exposition qui continue, c'est une exposition itinérante, que l'on peut voir et entendre, hein, je précise, on peut voir et entendre les photos. 30 000 personnes l'ont vue, sous forme de grand format, dans des lieux exceptionnels. Il y a les plus jeunes qui ont pu goûter aussi à ces bords de Loire. Et vous allez transporter cette exposition en Moldavie.
En fait, il y a des liens qui se créent, des liens culturels et associatif entre le rayon de Moldavie qui est le rayon de Nisporen, c'est une région de Moldavie centrale qui travaille avec le Rouennais et aussi d'autres régions du département de la Loire. Donc j'espère aussi travailler en photographie en Moldavie sur cette même thématique du rapport des habitants au grand fleuve qui la traverse. Et du coup, on pourrait échanger nos propres visions et nos propres façons d'habiter les bords des fleuves.
Et le travail que vous avez réalisé et que l'on peut voir à travers et donc entendre à travers cette exposition a donné lieu, enfin vient de donner lieu à un livre, Portrait au pluriel, Portrait de Loire, récit d'un bord de fleuve aux éditions Libelle. Le livre est sorti ?
Alors le livre n'est pas encore sorti. Le livre est en préparation. Il a fallu trouver les financements pour le livre parce qu'un livre de photographie et de qualité, ça coûte cher.
Il paraît.
Et les éditions Libelle, c'est un éditeur qui fait des beaux livres de photographie sur la société contemporaine et aussi en lien avec les fleuves. Ils ont travaillé aussi sur le Rhône, ils sont basés à Lyon, et sur la Saône. Et ils ont été très intéressés aussi pour travailler sur la Loire.
Et vous pouvez déjà vous réserver en pré-vente le livre sur la plateforme helloasso.com. Vous allez avoir un lien. Également celui de fleuve-loire-fertile.fr pour l'association qui a accompagné le projet. Et bien sûr, le site du projet, portrait, toujours au pluriel, portraitdeloire.fr. Merci Véronique.
Merci beaucoup Philippe et merci à toute l'équipe de Carnet de Campagne. J'étais ravie de vous retrouver quelques années après notre première rencontre.
À bientôt en Moldavie alors.
Oui, j'espère bien. Merci.
Et je réponds aux sollicitations de Lara. Lara, oui, j'ai eu vos messages. Lara fait partie des 8 habitants de 3 villages forésiens qui ont décidé de porter haut et fort les qualités de vie de leur commune très, très rurale. Elles ont réuni des fonds publics privés, elles ont sollicité une dizaine d'associations, 22 entrepreneurs, pour ensuite engager une équipe de tournage professionnelle. Elles ont réalisé donc un clip scénarisé à partir de témoignages et cette action très citoyenne consiste à donner une vision positive du territoire couvert par ces 3 communes. Or, je les cite, parce qu'il faut bien les chercher. Saint-Laurent, Rochefort, l'hôpital sous Rochefort et les débats rivières d'Orpra. À travers des thèmes que sont l'école, l'emploi, les services et les solidarités, vous allez trouver à nos pages un lien pour visionner ce clip qui a déjà enregistré quelques milliers de vues. Ça risque de continuer. On reste dans la Loire, cette fois au coteau pour le jeu des 1000 euros avec Nicolas Stoufflet.